Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. Très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous, vous êtes en forme. Nous sommes le vendredi 10 décembre 2021, il fait pas très beau dans le Beaujolais, des averses vont ponctuer la journée jusqu'à ce soir et les températures se situent autour de 6 degrés environ. Le week-end s'annonce également sous la grisaille et les températures restent assez similaires autour de 5-6 degrés. Dans cette émission, nous avons rendez-vous avec le prof Patrick pour une nouvelle rubrique socio-économique. On terminera l'heure en musique, bien sûr, avec un nouveau coup de cœur musical, comme chaque semaine. Mais d'abord, n'oublions pas la première partie de l'émission qui est consacrée à nos invités du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'Invino Musica, chorale à quatre voix de Villers-Morgon qui, après plus d'un an d'arrêt d'activité, forcé pour des causes que tout le monde connaît, ils seront enfin en concert ce week-end, samedi 11 et dimanche 12 décembre, à la salle des fêtes de Villers-Morgon. Concert en association avec le groupe Lyon en chanson. On va parler donc de cet événement, on va s'intéresser à l'histoire de cette chorale aussi, bien sûr. Chorale qui est active depuis 1986, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on va parler musique au sens large. Pour répondre à mes questions, deux personnes avec moi en studio. On va retrouver Daniel Chambard, chef de chœur, et Vincent Dassonville, président de la chorale Invino Musica. Je n'ai pas donné le nom du spectacle programmé ce week-end. Entre vignes et traboules, c'est comme ça que ça s'appelle. Il va donc être probablement question du Beaujolais et puis de Lyon. On commence par Lyon pour l'instant. Benjamin Biolay nous chante Lyon Presqu'île. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Respire.
Benjamin Biolay sur Calade avec le titre Lyon Presqu'île.
Ensemble sur Calade.
Allez, aujourd'hui avec moi en studio pour nous parler de la chorale In Vino Musica. On va retrouver Daniel Chambard, chef de chœur, et Vincent Dassonville, président. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler donc de cette chorale In Vino Musica. Je disais en début d'émission qu'elle est active depuis 1986. J'ai la bonne date ?
Tout à fait. C'est exact. Depuis 1986, j'ai construit cette chorale. J'étais tout jeune à l'époque et on a progressé au fil de ces années pendant maintenant 35 ans.
Ouais. Ça a commencé comment ? C'était quoi l'idée de créer cette chorale ?
Je venais tout juste de sortir du bac, un peu plus avec quelques années en plus, mais je donnais des cours de tuba et de solfège à l'époque à Villiers-Morgon.
Ouais.
Et des parents d'élèves ont eu l'idée de former une chorale suite à un voyage à Sassbach-Walden, qui est un village jumelé avec Villiers-Morgon en Allemagne, et en entendant une chorale d'hommes essentiellement. Et cette idée a germé dans leur tête de créer une chorale à Villiers-Morgon. Ils sont venus me trouver et très volontiers j'ai accepté avec le plus grand plaisir, et ça nous a amené jusqu'à maintenant.
À avoir, et ça a duré du coup quand même pendant des années et des années
Ça a duré effectivement avec l'enthousiasme qu'on connaît des choristes d'In Vino Musica. Malheureusement, comme tout le monde le sait, la crise Covid a mis un coup de frein à cet élan. On essaye de repartir tant bien que mal. On va y arriver, j'y crois très fort.
Je vous avais reçu pendant la crise, justement, par téléphone. On avait discuté, Daniel Chambard, et on parlait de cours à distance que vous aviez réussi à tenir, peut-être pour vos élèves dans les écoles de musique. Pour la chorale, c'était plus compliqué ?
Pour la chorale, c'était plus compliqué. Je me suis refusé, effectivement, de faire de la visio avec mes choristes, parce que c'est très contraignant. Je faisais des visios, effectivement, avec mes élèves tubiste, puisque je suis prof de tuba dans les conservatoires de Villefranche et de Lyon. Donc ça pouvait se faire, mais la fatigue après une visio était très présente. Donc avec les choristes, ça aurait été très compliqué. Il y en a qui l'ont fait, ça je l'avoue, mais voilà.
Ouais. Le plaisir de jouer en chorale, Vincent Dassonville, vous allez peut-être pouvoir nous en parler, de chanter ensemble. Je pense qu'on le retrouve facilement dans une visioconférence.
Participer à une chorale, c'est le plaisir de chanter ensemble et le plaisir de chanter devant un public.
Ouais.
Donc c'est un peu tout ça. Et donc, In Vino Musica, nous sommes 70 choristes inscrits, donc une grosse chorale. Demain, nous serons un peu moins, bon, à cause du Covid, bien sûr.
D'accord.
Je pense que dans très peu de temps, nous serons à nouveau 70.
Tous ensemble à 70.
Tout à fait.
La chorale, alors j'ai dit, comme si je m'y connaissais un petit peu, une chorale à quatre voix, parce que j'ai lu ça sur votre site internet, mais je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, alors expliquez-moi un petit peu.
Alors, ce qui serait plus juste, c'est de dire que c'est une chorale mixte, c'est-à-dire qui mélange des femmes et des hommes.
D'accord.
Voilà. Les harmonisations des chants que l'on chante peuvent se faire à deux voix, trois voix ou quatre voix, ou voire plus. Hein. Nous allons jusqu'à quatre voix, et des fois même une voix peut être séparée en deux.
Ouais.
Mais il est juste de dire une chorale mixte.
Une chorale mixte. Comment est-ce que ça s'organise, les répétitions, le travail ? Comment est-ce que travaille In Vino Musica ?
Alors jusqu'à présent, on travaillait par thème, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on choisissait un thème sur lequel on allait travailler, et puis bien sûr, de ce thème découlaient certaines chansons. Il y en a entre, on va dire, entre 17 et 20, et puis les répétitions se font de façon hebdomadaire, soit en tutti, c'est-à-dire tous ensemble, soit en voix séparée, et moi j'ai l'habitude de prendre un jour les femmes et un autre jour les messieurs.
D'accord. Donc une semaine sur deux.
Voilà, c'est ça. Une semaine sur deux, je divise la chorale.
D'accord. Et ça permet de se concentrer sur une voix en particulier.
Et ça permet effectivement de se concentrer sur une voix en particulier et d'avancer le travail beaucoup plus rapidement.
Je me suis demandé, en tant que musicien, diriger une chorale, est-ce que c'est pas un petit peu un terrain de jeu? Est-ce que vous n'avez pas un instrument qui est cette chorale, qui sont toutes ces voix réunies avec lequel vous pouvez aussi vous amuser un petit peu?
Vous avez raison de dire que c'est un terrain de jeu, parce que pour moi c'est un très grand plaisir. Si ça n'avait pas été un plaisir, je ne pense pas que j'aurais tenu 35 ans.
Ouais.
Et je peux rajouter aussi à ça que des fois on peut arriver à une répétition un peu morose, tout dépend ce qu'on vit quotidiennement. Ouais. Mais après une séance de chant, les gens se retrouvent ragaillardis et avec beaucoup de punch derrière.
Ouais. Un chef de chœur dans une chorale, c'est un rôle central. Qu'est-ce qu'il apporte, Daniel Chambard, à la chorale Invino Musica?
Le chef de chœur, ben, c'est celui qui est chargé de toute la partie musicale.
Ouais.
Une chorale, c'est de la musique, c'est aussi d'autres choses. C'est aussi d'autres choses. Et toute la partie musicale, c'est le chef de chœur, Daniel Chambard,
ouais,
qui s'en occupe. Et donc, il y a la partie choix des programmes.
Ouais.
En général, on essaye de faire jouer un petit peu le choix démocratique entre nous pour dire, bon, ben, on va traiter tel thème ou tel thème et tel thème.
C'est pas un chef de chœur autoritaire qui impose...
Je suis opiniâtre.
Vous pensez l'essentiel, ouais.
C'est un chef de chœur qui ne prend les morceaux qu'on lui propose qu'une fois qu'il les a admises comme étant jouables par nous-mêmes.
D'accord.
Voilà.
Oui, et puis aussi qui correspondent à mes ressentis aussi.
Voilà, tout à fait. Donc, vous l'avez compris, bon, un jeu d'aller-retour entre la partie direction de la chorale et la partie administration de la chorale et la partie direction musicale et artistique.
D'accord.
Donc c'est des allers-retours.
Ouais.
C'est bien, c'est la vie associative et c'est très bien.
Et justement, je crois que la chorale et la vie associative, c'est important dans Invino Musica.
Ah oui.
Il y a un groupe, une...
Ah tout à fait. J'ai souvent l'habitude de dire que la chorale, c'est une famille.
Ouais.
Une famille de 70 personnes, donc avec des bons moments, des moins bons moments. Il y a des fois on s'engueule, il y a des fois on se fait la gueule, mais on se retrouve toujours avec plaisir et ça fait vraiment partie de la vie en chorale que cette vie ensemble.
Ouais.
Et je vous cache pas que après une année d'interruption, bon, ben, il y en a beaucoup parmi nous qui attendent, qui sont sur les starting blocks pour que ça redémarre.
Donc une hâte, c'est de monter sur scène. Ça sera demain. Il y a deux représentations ce week-end. Il y en a une demain, samedi à 20h30 et une dimanche à 15h à la salle des fêtes de Villiers-Morgon. Là, vous êtes dans les starting blocks, j'imagine que le spectacle...
Oui, tout à fait. Là, je reviens du montage de la scène.
Ouais.
Donc,
on vous fait courir aujourd'hui.
Et j'y retourne dans une heure.
Ce spectacle, ça s'appelle Entre Vigne et Traboul. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans?
Alors, il y a deux associations qui se sont regroupées, Invino Musica, et qui organise son concert annuel. pour reparler de la période Covid qui a mis un frein à tout ça, il faut redémarrer. Donc, Invino Musica ne pouvait pas assumer l'entièreté d'un concert. Ouais. J'ai donc proposé au conseil d'administration, de faire venir une autre association qui s'appelle l'association Lyon en chanson, ouais, dont je fais partie, et qui s'affaire à rechercher des chansons lyonnaises. Il y en a énormément. Et on a mis en musique et en harmonisation toutes ces chansons. Je les chante. Il y a trois musiciens, ouais, un piano, Georges Allois, pour ne pas le citer, une clarinette, Lily D'Agostino, une accordéoniste, Patricia Hiver. Nous allons être épaulés par Corélia Chambard qui chante également, et Carole Jeunetier qui fait le lien entre toutes les chansons.
Qui raconte une histoire avec les chansons.
Voilà, qui raconte l'histoire des chansons, qui raconte une histoire, qui mêle un peu de théâtre à tout ça.
Quand vous dites chansons lyonnaises, c'est des chansons qui parlent de Lyon ou
Exactement. Là aussi, Georges Allois, qui a fondé cette association, s'occupe de répertorier toutes ces chansons. Il les a classées par thème. Il peut y avoir des chansons sur la cuisine lyonnaise, il peut y avoir des chansons sur les quartiers de Lyon, sur des chansons autant jadis, donc des chansons plus anciennes. Ça donne un répertoire extrêmement important.
Ouais, assez large. Vous m'avez envoyer un son, c'est Paris en colère du coup, ça s'appelle. Ce ne sera pas joué à ce spectacle-là.
Il y a de nombreuses chansons sur Paris, il y a de nombreuses chansons sur Lyon. Toutes les villes sont amies en France, alors pourquoi pas.
Et vous chantez aussi Paris en colère, on va la retrouver ce morceau-là ce week-end.
Non, on ne chantera pas, non, c'est vraiment sur Lyon.
C'était un concert que nous avions fait en 2015,
ouais,
sur Paris.
D'accord. On peut écouter un petit peu ce que ça donne, entendre quelques notes de Invino Musica. En colère, interprété par Invino Musica.
Voilà, ça illustre un petit peu ce que je disais tout à l'heure, les thèmes, et cette chanson faisait partie d'un thème qu'on a chanté en 2015, le thème de Paris.
Ouais. Le spectacle s'appelle Entre Vigne et Traboul, celui qui a lieu ce week-end. Est-ce qu'il y a un petit peu du Beaujolais dans les chansons lyonnaises ?
Évidemment,
oui.
Évidemment. Effectivement, c'était pour regrouper ces chansons de Lyon. On sait qu'il y a trois fleuves à Lyon,
ouais,
le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Il n'y avait pas de raison qu'on ne chante pas à Villemongon, le Beaujolais également.
Très bien, donc on va retrouver du local.
Ah oui.
Comment est-ce que la chorale a accueilli ce répertoire et puis chanté aussi avec un autre groupe, Lyon en chanson, comment ça s'est passé la préparation de ce spectacle ?
Bien, ce spectacle, on en a démarré le projet mi-septembre.
Ouais.
Donc, pour une préparation de spectacle de chorale, c'est extrêmement court. Et là, on s'est greffé sur le spectacle existant de Lyon Chanson. Ça ne remplit pas l'ensemble de ce qu'on pourrait faire, mais de toute façon, c'était impossible.
Ouais.
Et nous, notre urgence...
Il y avait un défi de pouvoir
Le défi, c'était de chanter en public.
Ouais.
Ici, c'était absolument indispensable. Il fallait qu'on y aille. Donc
défi relevé.
On a relevé le défi. On a relevé le défi avec Lyon Chanson. Et En 2 mois et demi, on a préparé une douzaine de chansons,
ouais.
Ce qui est extrêmement rapide.
Ouais.
Voilà.
J'ai vu des photos, je n'ai jamais eu la chance de vous entendre sur scène, mais j'ai vu des photos avec les costumes, c'est prévu aussi, il y a un travail de la scène et du visuel aussi, en plus de...
Alors, il y aura les costumes qu'on va... avec lesquels on va s'habiller pour ces deux concerts, ce sont les costumes traditionnels de la chorale, c'est-à-dire en noir et en rouge.
D'accord.
Pour faire assez simple, mais il y aura une petite mise en scène quand même,
ouais.
On va dire une mise en espace pour être plus juste, où les choristes vont jouer leurs chansons, parce qu'en fait ce sont deux concerts qui sont sous le thème de la joie, la gaieté, c'est un côté festif.
Ouais. Très bien. Donc, entre Vignes et Traboul, c'est ce week-end, une représentation samedi à 20h30, une autre dimanche à 15h, par la chorale In Vino Musica, avec Lyon en chanson. Comment est-ce qu'on fait si on veut réserver des places, etc.
Bien là, à cette heure-ci, c'est quand même un peu tard pour réserver, mais bon, il y aura quelques places disponibles. Je serais tenté de dire hélas, parce que d'habitude on fait 3 fois 300 places, mais ouais. Là, bon,
avec les
on se contentera d'un public plus restreint, mais bon,
non, mais
il y aura 200 personnes dans la salle.
Il faut inciter les gens tout de même à venir, parce qu'il y aura des places à l'entrée.
Tout à fait.
Qui peuvent récupérer de toute façon.
Il y aura des places disponibles.
Pour venir assister au concert.
À l'entrée, donc, de la salle des fêtes de Villiers-Morgon.
Parfait. Merci beaucoup à tous les deux, donc Daniel Chambard, Vincent Dassonville, d'être venus nous parler de In Vino Musica. Vous m'avez amené également un CD. Alors, c'est le morceau qu'on va écouter tout de suite. C'est vous qui l'avez choisi. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Oui, je l'ai choisi parce qu'il va faire partie du spectacle. Ça s'appelle Sur le plateau, qui fait référence évidemment au plateau de la Croix-Rousse. Et je l'ai choisi aussi parce qu'on entend sur le refrain la voix de Corilla Chambard, qui sera également présente sur scène ces 2 jours.
Très bien, et ben c'est ce qu'on écoute tout de suite. Merci beaucoup encore une fois tous les deux.
Merci à vous.
Ensemble sur Calade.
Sur le plateau de mon enfance, je me disais de cœur joyeux, de la deuxième ville de France, nous sommes les plus près des cieux. Nous avons pour les coquettes toutes les richesses du Pérou, le guet pampan des navettes, deux ficelles et le gros caillou. Sur le plateau, c'est Lyon le plus beau tableau. Quand il vente sur sa pente, on se croirait sur un bateau. Sur le plateau, c'est Lyon le plus beau tableau. Quand il vente sur sa pente, on se croirait sur un bateau. Sur un bateau. Croix-Rousse, quartier salutaire, oui, ton travail du cocon a fait le tour de la terre et la richesse de Lyon. La beauté de ton tissage amène les rêves les plus doux. Rester sage, tramer le bonheur des époux. Sur le plateau, c'est Lyon le plus beau tableau. Quand il vente sur sa pente, on se croirait sur un bateau. Sur le plateau, c'est Lyon le plus beau tableau. Quand il vente sur sa pente, on se croirait sur un bateau. Quand il monte sur sa pente, on se croirait sur un bateau. C'est avec bonheur et gloire la patrie de Pierre Dupont célébrer sa mémoire. Nous les amis de la chanson, entonnons d'une voix claire les sapins et les grands bœufs. Si la chanson dégénère, ce n'est pas parmi les soyeux. Sur le plateau, sur le plateau, cette vie en plus beau tableau.
Sur le plateau, un morceau donc chanté par Daniel Chambard et qu'on pourra retrouver au concert de In Vino Musica ce week-end. Je crois qu'il est temps de parler économie.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessif.
Le prof Patrick.
Et il est avec nous en studio, le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Ah mon cher Mathieu, tu sais que parfois je fais des promesses, hein, t'as dû t'en rendre compte, et puis c'est le cas, suite à une discussion il y a environ un mois avec deux amis, je leur ai fait une promesse, je leur ai dit ok, je vais parler de l'énergie nucléaire civile, donc on va en parler aujourd'hui mon cher Mathieu.
Très bien, allons-y.
Évidemment, hein, comme d'habitude, entre le moment où je dis je vais le faire et le moment où je le fais réellement, il se passe un peu de temps. Et là, vu la complexité du sujet, c'était un peu justifié que j'y prenne le temps. C'est aussi justifié qu'on ne fasse pas qu'une chronique, mais sans doute deux la semaine prochaine également. Et j'espère tout boucler en deux chroniques. On verra ça. C'est aussi un sujet qui suscite des affects extrêmement forts. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va commencer de façon un peu basique. On va reproduire un peu le discours médiatique classique qu'on entend partout. Et c'est dans un deuxième temps seulement, semaine prochaine, qu'on va chercher la petite bête et entrer dans la complexité du sujet.
D'accord.
On y va ?
Allez, allons-y.
L'énergie nucléaire, c'est d'abord une spécificité française. Ça a commencé dans les années 70. Le pouvoir, à l'époque, lance un immense programme de construction presque simultané de plus de 40 centrales nucléaires. Pour information, d'ailleurs, on ne mesure peut-être pas l'exploit technologique que ça représentait. Alors pourquoi la France fait ça dans les années 70 ? Ben parce que le pays commence à être étranglé par sa dépendance aux énergies fossiles. Ouais. Pétrole et gaz, etc. Et puis ces énergies, dans les années 70, voient leur prix s'envoler suite à des chocs pétroliers et à des rapports de force politique qui changent. Un seul autre pays, tout aussi dépourvu de ressources fossiles que nous, va faire le même choix massif, c'est le Japon. À l'époque, on ne parlait pas encore de réchauffement climatique, vous le savez. Donc l'autre avantage du nucléaire civil, sa très faible émission de gaz à effet de serre, passait inaperçu. Alors par contre, les réactions de la société civile en France et partout dans le monde sont très fortes immédiatement, parce que bon, je parle de la France, mais c'est pas spécifique à la France, hein, cette montée en puissance du nucléaire civil. Très vite, l'acceptation ou le refus du nucléaire civil devient un marqueur politique majeur. À droite, on est pour. À gauche, du moins dans une gauche moderne non marxiste qui émerge dans ces années-là, on est contre.
D'accord.
À partir des années 80, 75% de la production d'électricité en France est d'origine nucléaire. Et l'immense parc nucléaire français fournit une électricité dont on ne sait pas quoi foutre parce qu'il y en a trop.
Ah ouais.
Bah ouais, ils en ont trop. Donc on entre dans les années folles du tout électrique, on pousse les Français à s'équiper en chauffage électrique, on s'en fout un peu des économies d'énergie, on a tellement d'électricité. Et puis on exporte l'excédent de production à l'étranger et ça c'est bon pour la balance commerciale, coco. Quant aux râleurs et aux autres écologistes, eh bien, tant qu'ils se contentent de faire des concerts, c'est pas très grave, tout va bien. De temps en temps, ils font des manifs, mais bon, rien de bien méchant, quoi. Il y a de toute façon un consensus politique en France à l'époque sur la question. Gauche et droite confondues, je parle bien sûr de la gauche de gouvernement, mettons des guillemets à ce terme, c'est-à-dire le Parti Socialiste et le PC qui, dans les années 80, est en voie d'extinction. La première remise en cause sérieuse viendra d'un accident. Ouais. Alors, avant l'accident que je vais évoquer, il y en a eu un autre, celui de Three Mile Island aux États-Unis en 79. Alors, accident de faible ampleur quant aux conséquences sur la santé humaine. Ces conséquences de Three Mile Island en 79 ont surtout touché les États-Unis qui vont mettre la pédale douce sur leur programme nucléaire. L'accident dont je parle, c'est bien sûr celui de Tchernobyl en URSS. À l'époque, l'URSS était encore un état politique, en réalité c'est en Ukraine, et celui-là il est d'une toute autre ampleur. L'importance des populations déplacées, 250 000 personnes, l'importance des zones interdites d'accès aux êtres humains sur plusieurs décennies, la difficulté extrême qu'ont éprouvé les autorités scientifiques et politiques à contrôler la centrale quand elle a explosé, tout ça va porter un coup terrible à la réputation de l'énergie nucléaire civile. Je laisse de côté les polémiques sur le nombre de morts, j'aurai peut-être l'occasion d'en revenir dessus la semaine prochaine. Même si l'accent sera mis sur, évidemment, l'insuffisante exigence des normes de sécurité des centrales soviétiques, pour autant, c'est l'ensemble de l'industrie nucléaire mondiale qui se voit contrainte de renforcer très fortement ses procédures et ses systèmes de sécurité. Ce qui va avoir un coût, bien évidemment. Petite parenthèse, il y a une série excellente sur OCS, faite par HBO, qui s'appelle Tchernobyl, et qui raconte de façon assez précise cet accident.
Assez cru aussi, je
crois. Assez cru également, tout à fait. Alors c'est dans la décennie qui suit, les années 90, que va émerger sur le papier le modèle de nouvelle génération de centrales nucléaires, plus sûres, plus sophistiquées, on appelle ça les EPR. Mmh. EPR, c'est un anglicisme qui signifie réacteur nucléaire de troisième génération à eau pressurisée. Voilà. Cherchez pas plus et je ne vous en dirai pas plus techniquement.
C'est pas plus éclairant.
Je n'y connais rien au-delà. Ce choix fait l'objet de critiques. Je me souviens très bien, parce que je suis très vieux, avoir lu dans les années 90 des articles très critiques de scientifiques, du fait de la complexité extrême du concept d'EPR. Et déjà, il y a des doutes sur la capacité à maîtriser une telle complexité et sur l'impact financier que ça pourrait provoquer. Mais bon, foin des critiques, comme d'habitude en France, l'élite nucléaire va très vite convaincre les politiques que c'est la bonne solution et la France se lance à fond dans l'EPR. En France, deux acteurs sont sur les rangs, bien sûr EDF, l'acteur historique, mais aussi un petit nouveau qui s'appelle Areva, qui est apparu en 2001. En fait, il est apparu de la fusion, il est né de la fusion de la Cogéma, de Framatome et de quelques autres. Areva, à l'époque, n'a qu'une expérience de fournisseur de matériel nucléaire pour EDF. Donc, il fabrique du matériel nucléaire et il les vend EDF. Et là, devinez quoi ? Il prend la folie des grandeurs, Areva, et il décide de devenir maître d'œuvre.
D'accord.
C'est-à-dire de conduire un chantier, rien d'autre que le premier grand chantier de construction d'un EPR au monde, je crois. Hein. C'est possible que ce soit le premier au monde à l'époque. Ce sera en Finlande. Et il fait ça conjointement avec Siemens. On est en 2005, le coût prévisionnel annoncé environ 3 milliards d'euros, et la mise en service est prévue pour 2009, donc un chantier de 4 ans, ça m'a l'air pas mal sur le papier cette histoire. ça va être une catastrophe industrielle et financière, mais monstrueuse.
Aïe, aïe, aïe.
Alors on va parler du coût financier, on est passé de 3 à 12 milliards, fois 4.
Okay.
On va parler du temps de chantier. Hein. La mise en service 2009, non c'est pas ça. Disons que ça se fera en juin 2022 si tout va bien.
Non,
ouais.
Sérieusement.
Toujours pas en service. Hein.
Aïe.
Donc attention, 2005, juin 2022.
Je crois qu'on peut parler de fiasco du coup.
Ouais, tout à fait. Alors, le deuxième acteur, EDF, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est lui le chef, le cadre historiquement. C'est lui qui a géré les 42 centrales dans les années 70. Il se lance 2 ans après, à Flamanville, dans la construction de son EPR. Coût annoncé à peu près équivalent, 3,3 milliards d'euros. Pas de bol, ce coût sera réévalué à plus de 10 milliards d'euros, avant que récemment la Cour des comptes annonce un montant délirant de 19 milliards d'euros de coût de l'EPR de Flamanville. Il devait être mis en service en 2017, là ils avaient prévu plus large, ils avaient prévu 10 ans. Ça a été repoussé à 2024.
Non.
Donc, on verra ça.
Il
n'y
a pas encore de PR en service, du coup.
Non, il n'y en a pas en France. En France, les Chinois en ont mis en service, mais les Chinois, allez savoir ce qui se passe concrètement, bien du plaisir. Bref, la filière nucléaire, dans ces années 2010, n'a pas le moral. Et devine quoi, arrive sur ces entrefaites un nouveau problème, la catastrophe de Fukushima au Japon, mars 2011. Alors, un tsunami qui met hors service la sécurité de la centrale nucléaire et qui crée des dégâts absolument terribles. Évacuation massive de population, difficultés extrêmes également pour maîtriser l'accident. On est peut-être moins au niveau des personnes touchées immédiatement, on est quand même au même niveau de gravité que Tchernobyl. D'accord. Pour information, le coût estimé il y a 2-3 ans de cet accident, coût donné par le gouvernement japonais, était de, tenez-vous bien, 325 milliards d'euros. Ça fait cher l'accident, hein. Et je pense que ce coût va augmenter, bien entendu. Alors, c'en est trop, on est dans les années 2010-2015, et de nombreux pays se détournent vraiment massivement du nucléaire civil. L'Allemagne en tête. La France elle-même prévoit en 2013, sous François Hollande, de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à moins de 50% en 2025 et à moins de 30% en 2030. Voilà. On en est là, dans les années 2015. Et on va passer à la période 2015-2020. Et là, il y a quelque chose qui change, Mathieu. Disons qu'une grande claque s'abat sur la figure du monde entier en mode prise de conscience tardive. Le réchauffement climatique menace la survie de notre civilisation.
Ouais.
D'accord ? Oui. Donc là, affolement général.
C'est pas non plus une nouvelle.
Oui, enfin, disons qu'on le savait déjà avant. Hein, mais la prise de conscience, vraiment, c'est dans ces années-là. Et quand je dis 2015-2020, je suis gentil, c'est plutôt 2019 que la prise de conscience se fait, hein, notamment grâce, entre guillemets, à la pandémie. Bon, bref, il faut trouver tous les moyens pour réduire le plus vite possible nos émissions de gaz à effet de serre. Et là, on s'aperçoit que le nucléaire, il émet très très peu de gaz à effet de serre, c'est un fait. On s'aperçoit aussi que les énergies renouvelables les plus importantes, éolien et solaire, ont de vrais problèmes d'intermittence. Elles produisent peu en hiver, elles ne produisent pas quand il y a du vent. Enfin, je parle de l'éolien, vous avez compris. Et le problème aussi, c'est qu'on ne sait pas très bien stocker l'électricité. Donc on a toujours besoin d'une énergie de complément qui, elle, fonctionnera en hiver et quand il n'y a pas de vent. Alors évidemment, pas du charbon, c'est une horreur au niveau émission de gaz à effet de serre. Pétrole, c'est pas mieux. Gaz, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas top. Qu'est-ce qui reste, devine quoi? Il reste le nucléaire. Le
nucléaire,
Bah ouais, voilà.
Et l'hydraulique.
Oui, mais l'hydraulique existe. Le problème, c'est qu'on a atteint le maximum des capacités d'exploitation d'hydraulique. On ne peut pas exploiter plus, du moins sur le territoire français. Hein. Parlons de ce qui nous concerne. Bref, un consensus très rapide se forme à nouveau. Il faut repartir à fond dans le nucléaire. Et les annonces de projets de construction de centrales sur ces deux dernières années, très récentes, explosent littéralement. On est sur 300 projets de construction de centrales dans le monde entier, essentiellement dans des pays émergents comme la Chine, bien sûr, l'Inde, la Russie, etc., etc. Je vous donnerai des éléments plus détaillés la semaine prochaine. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que vous l'avez compris, tout le monde rentre dans le rang, même la gauche critique. On relance le nucléaire, merci, bonsoir, c'est fini. C'est un peu le discours médiatique qu'on entend habituellement, et puis c'est un petit déroulé des 50 années d'industrie nucléaire en France et dans le monde. Je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, à la semaine prochaine, pour qu'on rentre un petit peu dans le détail de la mécanique et qu'on aille comme Alice au-delà du miroir.
Merci beaucoup, prof Patrick. À la semaine prochaine, avec grande hâte de savoir la suite.
À plus.
À tout bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, un peu de musique tout de suite. Gunwood, c'est une nouveauté. Voici leur titre, Dreamboat Jane. They're riding all down the
sur Calade, groupe parisien, excellent groupe parisien, je devrais dire. On vient d'entendre leur titre Dreamboat Jane. Je ne sais pas si on va avoir un coup de cœur aujourd'hui, je vous propose plutôt un coup de surprise. J'ai découvert un groupe de musique qui s'appelle Bandit Voyage, et c'est une musique, je ne sais pas encore si j'aime ou pas, mais j'ai trouvé ça intéressant, surprenant, alors je vous propose d'écouter Bandit Voyage avec leur drôle de titre Moyen-Âge. Voilà, le morceau s'appelait Moyen-Âge, c'est un ovni musical, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, et c'est signé Bandit Voyage sur leur album Le Gang. Il nous reste quelques minutes, juste le temps de vous souhaiter une bonne fin de journée, un excellent week-end, et de vous donner rendez-vous lundi à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. D'ici là, vous retrouvez le podcast de cette émission sur radio-calade.fr, et la rediffusion, ce sera lundi matin à 10h. Excellente journée. À tout bientôt, ciao ciao. Je vous laisse avec une reprise de I Heard It Through the Grapevine, je crois que c'était Marvin Gaye à la base, c'est Gustavo Santaolalla, si je le prononce bien, qui nous l'interprète, et c'est excellent. À tout bientôt, ciao ciao.
Ensemble sur Calade.